France Inter, le 18-20.
Comment réformer l'assurance chômage? C'est notre thème. Au téléphone sonne la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a achevé hier un premier tour de consultation avec les partenaires sociaux avant de trancher d'ici quelques semaines. Après l'échec des négociations en fin février, l'État a repris la main sur ce dossier de l'assurance chômage. L'exécutif prévoit des annonces au printemps et puis un décret durant l'été. Le gouvernement a demandé aux partenaires sociaux de trouver entre 3 et 3 milliards et demi d'euros d'économies sur 3 ans et de réfléchir à un dispositif pour lutter contre les contrats courts. C'est sur ce sujet du bonus-malus que les négociations ont achoppé, un sujet sur lequel patronat et syndicats s'affrontent depuis des années. Les CDD de moins d'un mois ont été multipliés par 2,5 depuis 20 ans. Du côté des économies, l'exécutif s'intéresse de près à l'indemnisation des cadres qu'il juge généreuse par rapport à ce qui se passe chez nos voisins. Autre sujet à trancher, la base de calcul de l'allocation. La ministre du Travail affirme qu'il existe des cas où l'allocation chômage est supérieure au salaire mensuel perçu. Cela concernerait un demandeur d'emploi sur 5. C'est polémique, c'est caricatural, voilà ce que disent les syndicats. Sur tous ces sujets, toutes ces questions, appelez-nous au 01 45 24 7000 ou alors écrivez-nous des courriels franceinter.fr.
Pierre Veil, le téléphone sonne.
Et pour vous répondre, Marie-Lise Léon, secrétaire nationale de la CFDT, bonsoir.
Bonsoir.
Et Stéphane Carcillo, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste du travail, chef de la division emploi et revenus à l'OCDE. L'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Le standard du téléphone sonne, Jamal est avec nous. Bonsoir, vous êtes à Strasbourg.
Oui,
Jamal.
Bonsoir.
Vous
Bonsoir.
Êtes sur l'antenne, posez votre question. Avez-vous une remarque à faire sur ce financement de l'assurance chômage?
Oui, voilà, absolument. Donc c'était par rapport à ces économies qu'on va faire là, à raison de 1 milliard et quelques par an, donc sur les 3 ans, 4 milliards, hein, à peu près, c'est bien ça, il me semble.
Oui, tout à fait.
Et je trouve que bon, on pourrait parvenir à équilibrer les comptes et indemniser les gens normalement, donc quand ils sont au chômage, en faisant tout simplement des économies sur ce fameux CICE qui coûte les yeux de la tête annuellement et qui en termes d'emploi ne ben à mon avis hein, surtout sert de trésorerie pour de grands groupes et n'amène pas grand chose quoi. Voilà ma question.
Sur cette remarque, Stéphane Carcillo.
Alors c'est vrai que le CICE, c'est un dispositif qui coûte cher. Ça coûte aujourd'hui, je pense, si on considère uniquement la partie qui cible pas les bas salaires, environ 10 milliards d'euros. Hein. Il y a des débats, il y a eu une note du Conseil d'analyse économique sur le fait que bah, du coup, comme c'était ciblé sur des niveaux de salaire où il n'y a pas de chômage, bah, en fait, ça favorise pas beaucoup l'emploi et les embauches, ça booste plutôt les salaires, ce qui est bien, mais on n'a pas envie de le faire avec des taxes. Mais je voudrais simplement dire que ce sont deux choses quand même un peu différentes, parce que d'un côté, on est sur la compétitivité, sur le coût du travail et la capacité des entreprises à embaucher. De l'autre, on est sur un système qui doit aussi inciter au retour au travail durable de la part des chômeurs. Et c'est des outils un peu différents dans lesquels il n'y a pas vraiment de vaste communicant direct. L'assurance chômage, c'est un régime assurantiel principalement qui vise à ouvrir des droits des personnes qui ont cotisé. C'est pas tout à fait la même chose.
Vous dites qu'il faut assurer le retour au travail des personnes qui sont au chômage. C'est sous-entendu, on peut deviner que vous sous-entendez que peut-être qu'il faut pousser un peu plus fort pour que ces gens retrouvent un travail, ils ne le font pas suffisamment. Est-ce que j'interprète mal vos propos ou est-ce que ça fait partie de cette réforme de l'assurance chômage? Stéphane Carcillo.
Quand on regarde le système français aujourd'hui en comparaison d'autres systèmes européens et ailleurs dans les pays de l'OCDE, on se rend compte que c'est un système qui est aujourd'hui très protecteur, ce qui est bien parce qu'on a envie de protéger les gens contre le risque du chômage.
Mais pas assez incitatif.
Mais il n'y a pas toujours suffisamment d'incitation pour retourner à l'emploi rapidement pour ceux qui le peuvent, soit sur des emplois effectivement assez bien rémunérés pour les cadres, on pourrait aller plus vite, soit sur des emplois à temps plein. Aujourd'hui, le système français se caractérise, comme on l'a dit, par des taux de retour à l'emploi vers le CDD très très nombreux et des incitations à prendre les CDD qui sont fortes. tant du côté des chômeurs, c'est les règles de l'activité réduite hein, qui pourraient être revues, ou le calcul de l'allocation, que du côté des entreprises qui du coup surutilisent beaucoup les contrats très très courts. Hein, il faut dire que 30% des CDD durent un jour sans en payer du tout les conséquences à l'assurance chômage, alors que lorsqu'elles embauchent des gens en CDD, ben, c'est sûr qu'elles les renvoient à un moment donné à l'assurance chômage et que ces gens vont consommer leurs droits. Et aujourd'hui, c'est un des gros problèmes de déficit de l'assurance chômage, c'est ce développement des contrats courts qui coûtent beaucoup plus cher que ce que les gens cotisent.
Alors, à ce propos, on a reçu un courriel, là, je vous le lis, c'est Louis qui nous dit « Les contrats courts sont une nécessité dans différents secteurs, l'événementiel, les hôtels, les restaurants, les transports, il faut savoir s'adapter à la conjoncture. » Alors, sur ce courriel, Marie-Lise Léon, secrétaire nationale de la CFDT, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous estimez que non, c'est pas possible?
On est tout à fait d'accord. La négociation sur l'assurance chômage et la question des contrats courts, c'était lutter contre les recours abusifs aux contrats courts. Donc, pour la CFDT, on n'est pas du tout dans le déni du fait que y a besoin, l'économie a besoin de contrats courts. La question aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'un contrat court? Un contrat court, c'est un contrat de moins d'un mois. Et quand on parle de l'explosion des contrats courts, on parle de contrats très courts. On est sur des contrats de moins d'une semaine, voire de moins d'une journée. Donc on est sur de l'hyper-flexibilité, de l'hyper-précarité, qui renvoie directement à la façon dont les secteurs d'activité se sont structurés. Elles ont eu la balle. Les secteurs professionnels, vous parlez de l'hébergement, les cafés, les restaurants. Dans le cadre de la négociation précédente en 2017, on leur a donné les cartes en main en leur disant « Vous avez des spécificités sectorielles, comment est-ce que vous pouvez trouver des choses intelligentes pour à la fois pouvoir utiliser des contrats courts, mais ne pas en abuser ?» Et comment vous sécurisez aussi les salariés. Et je pense que là, on est sur la question de la responsabilité partagée. Et pour revenir sur la question de Jamal tout à l'heure, que je trouve très intéressante, elle pose la question des droits et des devoirs réciproques, que ce soit pour les salariés, ceux qui en sont privés d'emploi, donc les demandeurs d'emploi, et les employeurs. Et quand on parlait du CICE, il y avait des engagements en termes d'emploi, qui n'ont pas été respectés et qui posent la question des comptes à rendre qui semblent aujourd'hui plutôt portés du côté des demandeurs d'emploi à qui on dit « bon, vous bénéficiez d'allocations, c'est un système assurantiel, donc ils en bénéficient parce qu'ils ont travaillé ». Et je trouve que l'équilibre avec la responsabilisation des employeurs, elle est nécessaire. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu trouver d'accord.
Claude écoute le téléphone sonne et souhaite participer à notre émission. Claude, eh bien, vous êtes sur l'antenne, c'est le moment, on vous écoute.
Oui, bonjour et merci de me prendre. J'ai passé en 1982 le concours de prospecteur placier, un vieux terme, qu'on appelle conseiller maintenant. Hein. Il y avait deux épreuves écrites, donc une et plus une orale pour réussir le concours. Et j'ai eu la chance de l'avoir et je suis rentré donc à l'agence et à Pôle emploi ensuite pendant 32 ans. Dans l'une des deux épreuves écrites, il y avait une question qui nous était posée, qui était de dire, il y a tant de chômeurs, c'est-à-dire, je crois qu'à l'époque, on devait tourner 1,2 million, 1,3 million, et 80 000 offres d'emploi non pourvues. C'est-à-dire que ça fait presque 40 ans que la question est posée. Depuis, tous les politiciens, à chaque fois qu'est posée la question de savoir comment on va réformer le contrôle des chômeurs ou leur indemnisation, on affiche le fait qu'il y a des offres d'emploi non pourvues, ce qui a toujours été le cas. Voilà, donc aujourd'hui on nous annonce, alors selon tel politicien ou selon tel autre, c'est 100 000 ou 200 000 ou 300 000 offres d'emploi non pourvues. Et oui. Je me pose la question, et je termine là-dessus, de savoir si à l'ENA on apprend l'arithmétique. Parce que même si demain on avait une fluidité de l'emploi, enfin du marché du travail qui était exemplaire et que toutes les offres d'emploi sont satisfaites, 6 millions de chômeurs, moins 300 000 offres d'emploi non satisfaites, il en resterait quand même 5,7 millions. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Alors sur ce constat que vient de faire Claude, Stéphane Carcio.
Claude a raison de mentionner effectivement qu'il y a toujours un stock d'emplois qui sont non pourvus dans l'économie. Et c'est clair à tout moment parce que ça prend du temps de trouver un emploi et ça prend du temps de trouver un salarié. Donc c'est assez inévitable. Cela étant, c'est vrai qu'il y a aussi une part des emplois non pourvus qui sont retirés par les employeurs régulièrement parce qu'ils ne trouvent pas de personnes pour répondre à leur annonce. Et ça pointe sur le fait qu'il y a de nombreux facteurs qui expliquent qu'il y a du chômage. Un des facteurs, c'est que on trouve pas les bonnes compétences. La formation, c'est un complément absolument essentiel de l'assurance chômage parce qu'il y a des compétences nouvelles. Les emplois qui sont détruits, en général, parce que l'économie va mal, quand l'économie va bien, c'est pas les mêmes emplois qui se recréent avec des besoins différents. Et pour ça, il faut former les gens. Donc c'est un point qui est vraiment effectivement tout à fait central. Après, il y a des gens, c'est vrai, qui n'acceptent pas les offres qu'on leur propose. Donc ça pose la question du contrôle. Et puis, il y a des gens qui, effectivement, n'ont pas les incitations nécessaires pour accepter les offres. Et ça nous ramène aux règles d'assurance chômage, le fait qu'il y ait, ce que citait Muriel Pénicaud, un chômeur indemnisé sur 5 qui a une allocation supérieure à son ancien salaire, du fait des règles compliquées de l'assurance chômage qui font que, on est indemnisé sur la base d'un salaire journalier, et puis après, on nous verse une allocation sur tout un mois. Donc, on se retrouve parfois avec des gens qui ont travaillé 15 jours par mois pendant un an, et puis ils se voient verser une allocation mensuelle plus élevée que ce qu'ils avaient en moyenne chaque mois. Et ça, c'est clair que ça incite pas beaucoup à reprendre un job immédiatement. Donc, je veux dire, ce que Claude mentionne, c'est intéressant parce qu'il y a effectivement tous les aspects. Il y a l'aspect formation, l'aspect compétence, et aussi, pour une partie, c'est vrai, l'aspect incitation.
Alors, on a eu beaucoup de courriels, de réactions sur cette remarque de la ministre du Travail qui affirme, comme vous le disiez, Stéphane Carcio, qu'il existe des cas où l'allocation chômage est supérieure au salaire mensuel perçu. Ça concernerait un demandeur d'emploi sur 5. Sur ce point, Marie-Lise Léon, secrétaire nationale de la CFDT, vous êtes d'accord avec ce constat ou vous estimez que c'est une caricature ?
Je persiste, mon organisation a dit dès la semaine dernière que c'était une caricature. C'est une caricature et en plus c'est
donc
assez...
ce n'est pas vrai.
Ça, c'est une analyse biaisée des chiffres. C'est une analyse biaisée des chiffres parce que la ministre, quand elle dit qu'il y a un chômeur ou un demandeur d'emploi sur 5 qui gagne plus quand il est au chômage que quand il travaille, c'est considérer que on regarde ses revenus à l'échelle d'un mois et pas à l'échelle de la journée, ce qui est la référence actuelle de l'assurance chômage. Et au-delà de ça, au-delà des règles, moi j'ai envie qu'on parle des demandeurs d'emploi eux-mêmes. Concrètement, ça veut dire quoi pour eux ? Quelqu'un qui, pour accéder à l'assurance chômage, il faut avoir travaillé 4 mois. Et donc, si on a travaillé 4 mois, on est indemnisé sur 4 mois. On peut avoir travaillé 4 mois en enchaînant, par exemple, des contrats très courts, et avoir une période donc de 6 mois sur lesquels on a pu travailler, ne pas travailler, retourner au travail, etc. En général, d'ailleurs, chez le même employeur qui utilise des contrats courts avec le même salarié. Nous, ce que l'on dit, c'est que la règle actuelle, elle est juste parce que un salarié qui travaille pendant 4 mois sur une période de 6 mois, il est bien indemnisé sur 4 mois. C'est-à-dire qu'il a une indemnité d'un montant qui lui permet d'être dans de bonnes conditions pour retrouver un emploi. Et l'idée de dire on aligne le taux, enfin la façon d'acquérir des droits sur la période où on va les verser, c'est un peu considérer qu'un salarié a vécu dans la précarité pour accumuler des droits, il peut bien continuer dans la façon dont on les lui verse. Et moi, pour mon organisation, la CFDT, c'est pas avec ces conditions-là que les demandeurs d'emploi seront dans les meilleures conditions, parce qu'on le réaffirme, être au chômage, pour une très très grande majorité des demandeurs d'emploi, ça n'est pas un choix. C'est-à-dire que ils sont dans une situation où les employeurs ne leur proposent pas soit des emplois durables, soit juste du boulot.
Kamel nous appelle, il est à Toulouse, si je lis bien l'écran de mon ordinateur. Kamel, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je rejoins vaguement la dame qui a parlé précédemment. Moi, je dirais que les contrats CDD à court terme, donc.
Oui.
Moi, je serais pour que leur chômage soit plus évalué, parce qu'aujourd'hui, la conjoncture actuelle fait que un CDI est plus facile à licencier qu'un CDD.
Alors, cette remarque de Kamel, Marie-Lise Léon,
vous êtes d'accord? Ben, c'est pas. Enfin, après, ça dépend des termes du contrat du CDD. Quand on parle de contrat court, on parle à la fois des CDD, des CDD d'usage, les missions d'intérim, qui sont aussi. Quand on parle de l'explosion des contrats courts, on parle aussi des questions d'intérim. Et c'est vrai que quand on enchaîne les contrats courts, que l'assurance chômage soit là pour assurer. Faire l'amortisseur social, ça, c'est indispensable. D'autant que ceux qui bénéficient de l'assurance chômage, c'est parce qu'ils ont travaillé auparavant. Mmh. Donc, ils ont acquis des droits qu'ils peuvent utiliser. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est de cumuler emploi et allocation chômage permet... d'avoir un niveau, de maintenir un niveau de vie qui permette de retrouver un travail dans de bonnes conditions.
Stéphane Carcio, je rappelle, chef de la division emploi et revenus à l'OCDE.
Ce qui est un peu étonnant dans le système français, c'est que il y a des traitements très différents de l'indemnisation du chômage selon le type de contrat qu'on a occupé. Aujourd'hui, si on a travaillé un an en CDI à mi-temps, on va avoir une allocation qui va être beaucoup plus faible que si on a travaillé en CDD 15 jours par mois, tous les mois. Bon, c'est pas tout à fait équitable en fait. C'est pas très équitable pour les gens qui travaillent à temps partiel, donc qui ont également besoin d'être protégés. Et ça crée une désincitation aussi à accepter des CDD. Je pense que l'enjeu du problème, c'est là, c'est pas tellement la réduction des droits, c'est d'avoir un système qui soit protecteur pour tout le monde et qui ne crée pas ces absurdités et ces différences de traitement entre types de contrats. En plus, il faut comprendre que lorsque on indemnise très très bien sur un mois les personnes qui ont des contrats très courts, on facilite beaucoup aussi le travail des employeurs qui abusent des CDD. On l'a dit tout à l'heure, Marie-Lise Léon l'a dit tout à l'heure, il y a des employeurs qui, évidemment, ont besoin de recourir au CDD, il n'y a aucun sujet là-dessus, mais en revanche, il y en a certains qui, au regard de ce qui se passe dans leur secteur, le font beaucoup plus que les employeurs.
Il y a des abus, oui.
Il y a des abus, et donc l'enjeu, c'est d'essayer de faire rentrer le CDD qui est absolument nécessaire dans ses gonds. Et pour ça, c'est vrai que lorsque l'assurance chômage favorise fortement l'indemnisation du CDD, bah, ça facilite beaucoup le travail de l'employeur. C'est facile d'offrir ce type de contrat très précaire lorsque derrière l'indemnisation est très protectrice sur des périodes également très courtes.
Véronique, bonsoir Véronique, merci d'écouter Le Téléphone Sonne. Vous êtes en direct sur France Inter.
Bonsoir Pierre Veille et bonsoir à toute l'équipe. Voilà, moi mon mari est cadre, il a 58 ans, il sera au chômage dans 26 jours. Quand j'entends que les cadres coûtent trop cher à l'assurance chômage, j'ai envie de faire des bons. A priori, c'est 57% du brut. Comme il a plus de 55 ans, ce sera sur 3 ans maximum. Et moi, j'ai envie de faire des bons parce que j'ai deux enfants étudiants, j'ai une fille handicapée. Et que voilà, je trouve ça absolument incroyable de dire que les cadres coûtent trop cher à l'assurance chômage. Ce genre d'affirmation me révolte, mais alors à un point, je ne vous dis pas.
Maryse Léon, CFDT.
Je partage l'analyse que fait Véronique et sa colère. Je pense que là, quand le gouvernement annonce que il va y avoir probablement une remise en question des droits pour les hauts revenus ou les cadres, puisque c'est le terme d'usage, c'est aussi une façon politiquement d'expliquer qu'ils vont pas diminuer les droits des plus précaires. Voilà, politiquement, ils disent on va essayer d'équilibrer les choses. C'est totalement injuste de considérer que les cadres coûtent à l'assurance chômage. L'analyse que fait le gouvernement, c'est d'abord de dire comme il y a peu de chômage chez les cadres, c'est que ceux qui y sont, c'est qu'ils le veulent bien. C'est un raccourci tout à fait discutable. Et pour rappel, il est question le gouvernement a en tête de mettre en place une forme de dégressivité, donc de diminuer progressivement les allocations chômage. Ça n'a jamais fait la moindre preuve d'efficacité. Ça ne fait faire que très très peu d'économies au régime. Et c'est absolument pas une raison pour laquelle les cadres vont soudainement se décider à aller chercher du travail. Si les cadres sont aujourd'hui au chômage, majoritairement, très très majoritairement, c'est qu'ils subissent encore cette situation.
Stéphane Carcio, donc chef de la division emploi et revenu à l'OCDE, pour réformer l'assurance chômage, réformer son financement, est-ce qu'il faudrait qu'on s'inspire, selon vous, de pratiques dans certains pays étrangers qui, selon vous, sont des pratiques efficaces et lesquelles ?
Oui, effectivement, il y a des bonnes pratiques dont on peut s'inspirer à l'étranger, notamment la France, du point de vue des contrats courts qu'on a mentionné tout à l'heure, se rapproche beaucoup de la situation aux États-Unis, où en fait il y a une très fort recours à ce qu'on appelle le chômage temporaire, où on envoie les gens temporairement à l'assurance chômage pour les reprendre derrière. Donc il y a une très forte fluidité du marché du travail avec l'assurance chômage, ce qui a conduit les Américains à mettre en place un bonus-malus pour les employeurs. Ben, vous envoyez beaucoup de gens à l'assurance chômage, eh bien vous payez un petit peu plus que vos voisins. Et donc ce système, en revanche, vous êtes très vertueux, vous faites très attention à ne pas envoyer trop de gens au chômage, eh bien vous payez moins de cotisations à l'assurance chômage. Ce système de bonus-malus, il est intéressant, il mérite d'être étudié dans le cadre du recours parce que c'est une incitation financière et les employeurs, ils sont très sensibles à l'incitation financière en général. Voilà. Sur l'aspect des plafonds, c'est assez intéressant parce que le point de Véronique est évidemment difficile et complexe parce qu'il c'est le cas du traitement des cadres et le cas du traitement des seniors avec deux problématiques différentes. Un senior peut avoir des difficultés particulières à retrouver un emploi. Un cadre, en général, quand il est pas senior, un peu moins parce que le taux de chômage des cadres est très faible, 3-4%. Et dans la plupart des pays de l'OCDE, le plafond d'indemnisation est beaucoup plus faible qu'en France. Aujourd'hui en France, le plafond c'est 6 200 €. En moyenne dans l'Europe, c'est 1 700 €. Au Danemark, qui est pas un pays, qui est un pays très protecteur, le plafond c'est 2 500 €. Donc là aussi, il y a des questions à se poser. Pourquoi est-ce que effectivement d'autres pays qui sont effectivement très protecteurs dans l'assurance chômage ont des plafonds beaucoup plus faibles et pas nous? C'est une question qu'on peut également se poser.
Hicham, à Nantes. Bonsoir Hicham.
Oui, bonsoir Pierre, merci pour l'émission.
On vous écoute, bienvenue.
Ok, donc moi, en fait, c'est un témoignage. J'étais au chômage à un moment donné pendant mon activité. J'ai un bac plus architecture. Et c'est que, en fait, j'ai trouvé après mon job par rapport à ma propre recherche. C'est que je me suis retourné vers Pôle emploi qui ne savait pas où me placer par rapport à l'activité que je faisais. Et donc, j'ai dû, en fait, batailler moi-même pour retrouver du boulot. Et ce qui est aussi dommageable, c'est qu'en fait, on entend par rapport à vos interlocuteurs et le monsieur, c'est qu'on pointe toujours les gens qui sont au chômage. Moi, le chômage, je ne l'avais pas choisi. On l'avait subi. Et donc, à un moment donné, en fait, il fallait... Voilà, parce qu'on a des charges, on a une vie. Donc on cherche du travail. En fait. On n'est pas là pour se mettre sur.
Bien sûr.
Sur un système là, quoi.
On comprend ce que vous dites. La ligne téléphonique est pas très très bonne et vous expliquez que finalement Pôle emploi n'a pas pu vous aider, ne vous a pas aidé, n'a pas réussi à vous trouver un emploi. Ce témoignage, Marie-Lise Léon, secrétaire nationale de la CFDT.
Ce que m'inspire le témoignage d'Hicham, c'est que quand il est question d'assurance chômage, c'est très important d'être sur les deux pieds que la CFDT porte depuis de longues dates. C'est à la fois une question d'allocation, donc maintenir un niveau de vie pour pouvoir retrouver dans de bonnes conditions un emploi, et c'est la question de la qualité de l'accompagnement. Alors, dans le cas d'Hicham, je connais pas son cas précis, sa formation, son expérience qu'il recherchait, mais je tenais quand même à souligner le fait que Pôle emploi fait quand même un travail remarquable d'accompagnement, de plus en plus tourné sur l'accompagnement personnalisé, avec l'idée que il faut faire plus pour ceux qui ont le plus besoin. Et c'est l'un des enjeux qu'on a échangé dans le cadre de la négociation, la qualité de l'accompagnement, un accompagnement personnalisé. Et c'est vrai que l'assurance chômage, c'est aussi peu dit. On parle beaucoup de son déficit, mais il faut savoir que dans le budget de l'UNEDIC, 3,5 milliards par an vont au financement de Pôle emploi, à savoir les deux tiers, et que quand on nous reproche quand on nous demande de faire des économies, il faut que le gouvernement est bien en tête que ce qui est quand le régime est chaque année déficitaire, c'est parce qu'il a des dépenses qu'il assume pour le compte de l'État.
Quelles seraient les mesures que vous pourriez accepter, vous, à la CFDT, pour réformer ce financement de l'assurance chômage pour faire des économies?
Alors, on a balayé
des
grandes lignes. Il y a un sujet sur les grandes lignes, c'est principalement mettre des règles d'équité. Et lorsque, par exemple, un demandeur d'emploi est multi-employeur, il y a des règles où il cumule une allocation chômage et des revenus. avec plusieurs employeurs, qui fait qu'à un moment, il y a des règles qui ne sont pas tout à fait équitables par rapport aux demandeurs d'emploi. Ça, c'est un sujet qu'on a posé sur la table et qui peuvent être regardés. Un autre sujet dont on parle peu, c'est le rôle de l'assurance chômage dans le lancement des nouvelles activités. Par exemple, un créateur d'entreprise va souvent être orienté vers l'assurance chômage pour bénéficier de son capital et pouvoir avoir un revenu régulier. Alors qu'il peut avoir des revenus de par son activité non salariée. Donc là, nous, on a clairement posé la question dans la négociation. Est-ce que c'est le rôle de l'assurance chômage d'être dans ce cadre-là? Plutôt, de notre point de vue, c'est pas trop son rôle, c'est plutôt les aides aux entreprises que l'État devrait être en mesure de mettre en place. Donc voilà, il y a des pistes qui existent. Néanmoins, il faut quand même être clair, le montant des économies attendues est colossal. Et il ne se fera pas sans des baisses de droits, notamment sur les plus précaires. On a estimé, on a fait des calculs sur l'activité réduite, quelqu'un qui a un petit peu de travail et une partie d'allocation chômage. Si on applique le nouveau mode de calcul sur les critères mensuels et pas journaliers, on va avoir des baisses de droits jusqu'à 20% pour certains allocataires. Donc c'est un gros sujet de préoccupation pour la CFDT.
Jean-Noël à Bordeaux. Bonsoir Jean-Noël, il patiente depuis plusieurs minutes. Bienvenue sur l'antenne Jean-Noël.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute, nos invités vous écoutent.
Oui, je voulais savoir si le gouvernement réfléchissait à des mesures incitatives pour les seniors, ou seniors plus, je dirais, puisque moi j'ai 58 ans, je suis cadre, je suis au chômage depuis maintenant 2 ans, veuf, avec 2 enfants à charge, à élever. Et donc, on me parle beaucoup de réseau. Je suis dans une région depuis que je connaissais, ça fait peu de temps, et donc sans emploi, donc... qu'il envisageait qu'il y ait des mesures incitatives pour que senior ou senior plus puissent retrouver un emploi, sachant que moi je suis prêt à travailler jusqu'à 65 ans largement, je suis en forme. Donc voilà. Voilà l'objet de mon appel.
Stéphane Carcio.
De mémoire, il a existé des dispositifs incitatifs pour que les employeurs embauchent des seniors, notamment en essayant d'utiliser une partie des droits à l'assurance chômage comme finalement pour subventionner le retour à l'emploi dans l'entreprise. Il y a des idées comme ça qui ont existé. Je ne sais pas si ça existe encore dans le dispositif, mais il est clair que pour un certain nombre de seniors qui sont au chômage depuis relativement longtemps, qui doivent changer de secteur, c'est peut-être votre cas Jean-Noël, il faut non seulement de la formation et de l'accompagnement, mais il faut aussi une aide financière, parfois pour l'employeur, qui peut être temporaire et qui peut parfois aider. Il y a aussi d'autres dispositifs qui existent à l'étranger qui sont intéressants, c'est l'assurance non pas chômage mais l'assurance salaire, c'est-à-dire que ça existe assez peu souvent, mais c'est étudié de plus en plus. Quand quelqu'un change de secteur et qu'il doit subir une perte de salaire parce que les emplois dans le nouveau secteur sont un peu moins bien payés, eh bien en fait, au lieu de payer une allocation chômage, on peut payer un différentiel pour combler le manque à gagner. Et ça, c'est aussi quelque chose une situation face auquel les seniors sont souvent confrontés.
Témoignage sur le site de l'émission Ce courriel de Juliette. J'habite et travaille aux Pays-Bas. Ici, les allocations chômage sont plafonnés autour de 1700 euros. Cela motive vraiment pour trouver un emploi lorsqu'on avait un haut salaire. Et puis cette question, cette remarque d'un auditeur, là c'est Michel. Est-ce que les droits rechargeables pour ceux qui ont épuisé leurs droits, est-ce que cette mesure enferme finalement dans la précarité? Qui veut répondre à cette remarque sur les droits rechargeables? On a eu pas mal de remarques à ce propos. Stéphane Carcio.
Les droits rechargeables, c'était une innovation assez intéressante puisque ça consistait à dire, ben voilà, vous avez cotisé tant de temps, vous avez un capital de droits. Si vous retournez au travail, n'hésitez pas parce que ce capital de droits, vous allez le garder. Ouais. Et si vous retombez au chômage plus tard, c'est pas grave. Vous reprendrez vos droits là où vous en étiez. Et puis, lorsque vous les épuiserez, on vous fera un recalcul pour voir ce que vous avez accumulé depuis. Et donc, c'était une idée effectivement assez intéressante. La difficulté qui existe, existe via les droits rechargeables, c'est comment ils interagissent avec les contrats courts. C'est-à-dire que on a aujourd'hui quelque chose qui existe dans l'assurance chômage qui s'appelle l'activité réduite. Comme l'a rappelé Marie-Lise Léon, on peut travailler un peu une partie du mois et être indemnisé une autre partie du mois. Et en fait, ce système fait que, couplé avec les droits rechargeables, fait que chaque mois, on réaccumule de nouveaux droits et on recharge petit à petit son enveloppe de droits. Si bien qu'en fait, alors que l'assurance chômage doit durer en principe 24 mois, et ben en fait, pour certains demandeurs d'emploi qui font sans cesse ces allers-retours entre activités réduites et travail, ben en fait, elle peut durer de manière indéfinie. Et ça, c'est pas tout à fait souhaitable forcément. On a envie de bien protéger ceux qui ont des grosses difficultés, mais on a aussi envie d'inciter au retour à l'emploi durable ceux qui le peuvent.
Marie-Lise Léon.
Oui, le principe des droits rechargeables, c'est quelque chose que un principe que la CFDT avait beaucoup défendu en partant du principe que il est toujours mieux de pouvoir reprendre un emploi que de s'installer dans une période de chômage, de s'en éloigner petit à petit, et on sait que c'est beaucoup plus difficile d'y revenir après. Il y a certainement des situations où les droits rechargeables permettent, enfin installent une forme de cercle infernal, mais le problème n'est pas, de mon point de vue, c'est pas la question des droits rechargeables. Le problème, c'est les types de contrats et l'enchaînement des contrats, et pour lesquels on a là encore la responsabilité des employeurs qui, plutôt que de réfléchir à quelque chose sur le plus long terme, utilisent de l'instantané et des contrats du jour au lendemain en se disant bon, est-ce que c'est ça la réalité des demandeurs d'emploi ou salariés qui sont en contrat très court, c'est du jour au lendemain, ils savent pas quand est-ce qu'ils vont bosser et ni combien de temps.
Avant de retourner au standard, cette information de dernière minute à propos de ce détenu qui a poignardé deux surveillants à la prison de Condé-sur-Sarthe. Ce détenu a été interpellé il y a quelques instants par le RAID ainsi que sa compagne. C'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui vient de l'annoncer. Au standard, Julien est avec nous. Bonjour Julien, bonsoir. C'est Pierre plutôt. Alors Pierre, d'accord. Pierre d'abord à Toulouse. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir, merci pour vos émissions.
Je vous en prie,
je voudrais témoigner d'un phénomène qui est certainement marginal, et je dois dire que de manière générale, j'approuve les indemnités chômage et les systèmes qui est un système très bon pour le pays. Mais il y a un certain nombre de personnes, et moi je suis cadre et je suis amené à recruter des gens, quelquefois en CDD, et il m'est arrivé d'être tout content de proposer un CDI à des personnes qui le refusait et qui me disait, mais par contre, n'hésite pas à me rappeler dans 6 mois, je serai disponible. Et effectivement, c'est un peu un mode de vie intermittent, c'est-à-dire que ça correspond un peu à une expression que j'ai entendue à plusieurs reprises, qui est un tel, ben, il va jusqu'au chômage, et puis après, il verra, et puis il reprend, et voilà. Et donc, je pense que dans ce phénomène-là, il y a quelque chose qui ne me paraît pas juste par rapport à un mode de vie choisi plutôt que subi.
Marie-Lise Léon.
Oui, on peut toujours trouver des exemples autour de soi de quelqu'un qu'on a rencontré qui a pu avoir ce type de discours. Moi, j'aimerais qu'on comptabilise le nombre de personnes qui refusent un CDI par rapport à ceux qui en voudraient un et à qui on ne le propose jamais. Je pense que il y a toujours des exemples qui sont contraires à la règle, mais je pense que la très très large majorité des demandeurs d'emploi veulent de la stabilité, de la visibilité, un peu de sécurité, tout simplement.
Voilà, ils ne profitent pas du système, parce que c'est un petit peu ce que nous disait cet auditeur, Stéphane Carcio.
Je pense qu'il y a des exemples, effectivement, et le système d'assurance chômage aujourd'hui génère des cas où il y a des gens qui ont les moyens de retourner sur un emploi durable et qui ne le font pas, parce que il y a toutes ces règles qu'on peut optimiser, comme on a mentionné. Ça, c'est typiquement un cas, effectivement, où il y a quelqu'un qui a trouvé, effectivement, une manière de travailler une partie de l'année et puis d'être indemnisé une partie de l'année.
Ça fait partie des réformes qui vont entrer en vigueur dans cette réforme de l'assurance chômage que prépare le gouvernement.
Je pense qu'un des objectifs d'une réforme de l'assurance chômage efficace, c'est de faire en sorte de continuer à protéger les plus vulnérables, très fortement, mais d'inciter tous ceux qui le peuvent à reprendre un emploi durable. Et ça, je pense, c'est le gros enjeu. Et il faut essayer de combiner les deux. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire une réforme qui fait des économies et qui est juste.
Marie-Lise Léon.
Un tout petit complément quand on parle de CDI, il faut aussi regarder les conditions d'emploi. les conditions de travail qui sont proposées. Et c'est vrai qu'on a aussi parfois des CDI qui peuvent être proposés, mais dans des conditions de rémunération qui sont pas du tout adaptées, avec des temps de transport extrêmement longs, des horaires décalés où la garde d'enfants n'est pas prévue. Enfin, il y a aussi un ensemble.
On peut pas accepter n'importe quoi.
Voilà, n'importe quel prix.
Julien était en ligne avec nous. Ce sera le dernier appel. Bonsoir Julien. Soyez pas trop long parce que l'émission est proche de la fin. Julien.
D'accord. Oui, allô, bonsoir.
Allez-y.
Ça va être assez court. Alors, je suis jeune diplômé et je suis actuellement intérimaire. Et la société traîne les pieds pour proposer un CDI. Mais la stratégie claire et affichée, c'est de multiplier ces genres de contrats courts et de prestations. Du coup, ça me met dans une situation pas du tout idéale parce qu'être intérimaire, déjà, c'est très très difficile d'avoir un appartement. Voilà, juste ça, ça plante le décor. Et en fait, la question pour moi, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour enrayer ce mécanisme-là qui entretient... Qui entretient ce climat où les sociétés multiplient ces genres de contrats courts.
Bien sûr. Merci Julien, Stéphane Carcio, cette galère des CDD.
Bah alors c'est un très bon exemple parce que c'est effectivement essentiellement sur les jeunes que ça pèse. Et donc sur les jeunes, sur les personnes moins expérimentées que ça pèse. Donc c'est très injuste ce système de CDD et les jeunes sont pris dans des carrousels de CDD et une des solutions possibles c'est de moduler les cotisations des employeurs en fonction de leur comportement de recours à ces CDD, c'est ce fameux bonus malus.
Marie-Lise, Léon,
je partage tout à fait
sanctionner les entreprises qui abusent.
Il faut inciter à changer les comportements des entreprises. Et aujourd'hui, on a essayé beaucoup de choses. Force est de constater que c'est par le biais de la cotisation et de la surcotisation que les employeurs changeront probablement leur comportement.
Merci à nos invités Marie-Lise Léon de la CFDT, secrétaire nationale, et Stéphane Carcio de l'OCDE.